Bonjour. L'intitulé de mon exposé, c'est donc de la fusion audio-vidéo pour de la reconnaissance d'objets. Alors, le titre est en anglais parce que j'étais en retard et donc j'ai donné ce titre-là. Et en réalité, les gens qui me connaissent vont se poser la question: qu'est-ce qu'il vient faire en fusion? Et vous allez voir que il y a une partie de mes activités que vous allez retrouver dans cet exposé autour de la fusion. Donc, au lieu de parler de ça, je vais plutôt vous parler de ça. Et donc, fusion audio-vidéo. Donc, pourquoi ça se passe pas bien, à mon sens? Alors, c'est un point de vue personnel, mais vous allez voir, ça sort pas de nulle part. Je pense que certains seront pas d'accord, mais je vais vous présenter des arguments qui vont montrer pourquoi, à mon avis, on n'y arrive pas très bien. À travers des expériences. Alors, pourquoi la vision multimodale audio-vidéo? C'est parce qu'à l'ISIR, nous avons plusieurs plateformes, et c'est des plateformes robotiques qui ont... alors là, j'ai mis quelques plateformes qu'on a. Donc, il y a l'iCub, qui a donc deux oreilles, deux yeux qui bougent, est censé avoir une peau bientôt. On a ces robots ultra rapides où il y a donc du son, de la vibration, de la vision catadioptrique, et puis de la vision classique. Il y a ce bateau qui est, ce sont tous des, ça c'est deux ANR en fait. L'ANR Azarom qui est un bateau autonome qui est censé traverser l'Atlantique, donc qui a un capteur panoramique sur le mât, plein de capteurs de vibration, et le but c'est de lui donner un point GPS dans le monde, et il doit y aller. Et donc on a commencé à se poser plein de questions. Dont comment fusionner de l'image et du son. Alors, en général, ce qu'on veut quand on fait des applications comme ça, c'est de développer quelque chose qui ne consomme pas beaucoup d'énergie, qui soit quand même extrêmement rapide, et puis les contraintes extrêmement fortes, c'est à mon avis la plus forte, c'est vraiment d'être synchronisé, et puis de pouvoir être extrêmement robuste, sans quoi votre machine va forcément se casser la gueule. Alors, il y a un autre projet où ce travail a été effectué, qui est plus le projet européen IKEA. On l'appelle IKEA, mais IKEA veut dire Integrating Cognition, Emotion and Autonomy. Et au-delà de ça, c'est un projet de Jean-Arcadie Meyer. Et donc, c'est fabriquer un rat artificiel qui doit vivre sa vie dans un laboratoire. Et donc ce rat doit être le plus biomimétique possible, à savoir avoir deux oreilles que nous avons calculées, ça se calcule presque comme un miroir, deux yeux qui bougent avec des caméras PTZ, qui sont très chouettes, c'est des caméras avec des gouttes d'eau ici, et puis des vraies moustaches, donc il est capable de savoir quelle est la texture quand il bouge. Le rat en fait se sert beaucoup de ses moustaches. Et donc le but, c'était vraiment d'essayer de voir comment faire pour que ce robot puisse s'en sortir avec plein de jouets, reconnaître la machine à café, enfin reconnaître plein de choses à partir de l'image et du son. Alors j'aime beaucoup ce schéma d'un papier qui était autrefois assez cité, qu'on voit moins maintenant, d'Adelson et Bergen, qui en fait ont essayé de se poser la question qui intéresse pratiquement personne, qu'est-ce qu'une primitive dans une image ? Alors, ils ont fait je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce papier. Donc, ils disent, en gros, voilà, il y a la rétine, elle envoie quelque chose, et puis en général, on va essayer de faire, d'extraire plein de choses qu'on pense être ce qu'on doit trouver. Donc, vous avez déjà une prédiction sur ce que vous devez trouver, et puis, à partir de ça, je vais faire du calcul en essayant de les fusionner, je vais utiliser de la mémoire, et encore plus de calculs. Et finalement, on s'aperçoit que plus vous allez extraire des primitives et plus vous allez vous éloigner de votre rétine, et moins forcément vous aurez d'informations. Donc, comment faire de la fusion, etc. Alors, comment ne pas parler de SIFT? Donc SIFT, je pense, bon après il y a des variations, mais disons que c'est SIFT qui a permis... on va dire qui est le plus utilisé aujourd'hui, et une des raisons c'est qu'il fusionne, j'ai mis ici toutes les échelles, c'est vraiment pris d'un exposé de l'eau qui dit exactement ce que fait SIFT. Alors SIFT, tout le monde sait ce que c'est que SIFT, comme ça m'évite d'en parler, non. Donc en fait, une grande partie des détecteurs utilisés par l'image aujourd'hui sont différentiels, c'est-à-dire on a envie de savoir, dans la même veine qu'un contour, où est-ce qu'il y a des variations dans l'image et quelles sont ces variations particulières. Et un autre problème des primitifs dans l'image, c'est que vous avez un problème d'échelle. Si je vois quelque chose de très près et quelque chose de très loin et que je prends les deux images, mon cerveau le fait très bien, mais la machine va avoir beaucoup de problèmes. Donc Swift, en fait, a mis en place plein de choses en les mettant bout à bout, des choses qui étaient plus ou moins connues, hein. Enfin, il n'a rien inventé de nouveau. C'est donc d'être capable d'être multi-échelle, donc ça prend un temps fou, il découpe en plein d'échelles, après il va savoir à quelle échelle il détecte des coins, donc quelque chose qui ressemble à ce que vous donnerait un Harris, et puis il essaie de savoir à quelle échelle le point il est plus représentatif, et puis il essaye d'appliquer des voisinages pour savoir dans quel sens ils sont orientés, enfin, c'est plutôt lourd. Alors nous, on a utilisé quelque chose d'autre pour le rat Ikea, qui marche aussi bien, et que, enfin, je donnerai les références aux gens, c'était dans un Heroes, puis ça va sortir bientôt, je ne me souviens plus où. Et en fait, voilà, en gros, à quoi sert, enfin, on va dire, 90% des utilisations de Swift, c'est ça. Vous connaissez des objets, généralement, les objets sont bien texturés, sinon vous êtes un peu mal parti. Et puis vous avez une scène où vous pensez avoir les objets, vous détectez les points et la description du point, et puis vous dites bon, bah, visiblement, quand j'ai vu ce paquet de points ensemble, ça a l'air d'être la grenouille, et quand j'ai vu ce paquet de points. Un des problèmes que les gens qui travaillent sur Swift rencontrent, c'est qu'il est extrêmement difficile d'intégrer des contraintes spatiales. Ça veut dire que si je vous prends la même image et je découpe une patte de la grenouille, je la jette à droite, une autre patte à gauche, c'est extrêmement difficile de dire c'est les points. Alors, on peut rajouter des transformations affines, mais à mon avis, c'est pas convaincant quand on va atteindre des grands mouvements. Et personnellement, je n'aime pas beaucoup ces approches. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Alors, une autre approche, là, pour la peine, qui est... Oups, allô. Voilà, qui est assez vieille, en fait, c'est l'approche Texton, qui a été reprise il n'y a pas longtemps. Alors, bon, il y a plein de développements, hein, on appelle ça les bags of words, etc., mais c'est vraiment l'approche Texton, qui dit exactement l'opposé du reste, qui dit finalement, je ne vais pas aller chercher de l'information différentielle à un endroit, donc je n'ai pas envie de savoir s'il y a quelque chose qui a bougé, mais tout est utile dans une image. Et c'est quelque chose qui pour moi a un sens parce que, effectivement, des fois vous reconnaissez des environnements parce qu'il y a une répétition énorme et que dans un environnement d'intérieur, comme un couloir de laboratoire, des fois c'est pas évident de trouver des points d'intérêt. Et donc la plupart des algos indoor, remarquez bien dans les papiers, on met des textures partout pour être sûr qu'à peu près s'y retrouver. Si vos murs sont homogènes, on s'en sort, mais la machine pas très bien. Alors l'idée c'est quoi ? Bah, c'est d'avoir une base de données de patch, à peu près. Vous avez un petit vocabulaire, et puis vous découpez vos petits patchs, vous regardez où c'est là-dedans, et puis vous remplacez par une couleur. C'est à peu près le même principe, et donc vous obtenez des régions. Vous avez indexé l'image avec votre vocabulaire. Alors là, vous traitez beaucoup plus d'informations, puisque vous prenez pour la peine tout ce qu'il y a dans l'image. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent, ça revient énormément à la mode, et pourtant les premières définitions des textons, c'est à peu près début des années 80, si je me rappelle bien. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a voulu commencer, on a pris plein d'objets, chaque objet ici en a 26, donc a une texture propre, et chaque objet a une signature sonore qui lui est propre, mais qui peut aussi ressembler beaucoup à celle d'un autre. Donc vous avez ça, vous le tirez, ça fait plein, enfin ça fait une gamme. Vous avez des voitures, donc il y a des moteurs électriques, etc. Et le but, c'est de les enregistrer en mettant des occlusions. Alors vous remarquerez qu'on ne sait pas quand même extrêmement compliqué la tâche. On a pris un fond bien blanc, mais quand même, vous allez voir, on va bien bruter. Et le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut extraire de ces informations et qu'en est-il réellement. Il y a une méthode. Que nous avons repris il n'y a pas très longtemps, dans Heroes 2007, qui repart un peu de l'idée des textons, qui dit que finalement, si vous arrivez à découper une image, et que finalement tout est utile dans l'image, et vous découpez vos patchs, vous pouvez les ordonner. Alors ici c'est ordonné sur la texture, mais vous pouvez l'ordonner sur la couleur, etc. Et donc vous pouvez, disons, créer une description à peu près statistique de ce qu'il y a dans l'image. Si vous faites ça, ça va bien marcher, ça marche même pas trop mal, étonnamment. Mais le problème, c'est que si ce mug, si ce bol va bouger un peu, vous n'allez pas le découper de la même manière. Avec un peu de chance, si vous prenez une séquence vidéo, vous allez bien le reconnaître parce que vous allez découper et retrouver à peu près la même distribution. Mais disons que le problème, finalement, de ces méthodes-là, c'est comment vous assurer d'être capable de découper l'objet de la même manière. Donc l'idée qui a été retenue, qui est finalement assez simple, c'est de dire on va découper l'image de telle sorte en quatre sous-imagettes, de telle sorte à ce que ce point-là soit choisi de manière à ce que chaque sous-imagette ait la même quantité d'informations dedans. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une information, elle sera, alors, évidemment, orientation près, vous allez pouvoir la découper de la même manière. Donc c'est un quatri entropique. Alors vous voyez ici ce que ça donne. Si votre quantité d'informations est stable, vous allez plus ou moins découper de la même manière. Alors c'est assez utile pour la localisation, parce qu'à un endroit, finalement, vous arrivez à savoir à peu près si vous le découpez plus ou moins pareil si vous êtes à un endroit. Et le papier, il parlait plus de localisation de cette méthode, qui, elle, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel type d'image. Et puis ici, on voit que par rapport à un quadtri classique, les patchs n'ont pas la même taille. Donc des fois, vous allez ajuster, vous n'allez pas avoir des tailles de même part, enfin des patchs de même taille. Et vous allez avoir finalement une meilleure description. Ici, vous voyez, donc on a découpé en 4 par 4, etc. C'est un algo récursif. En général, vous choisissez une échelle. Il y a des heuristiques pour choisir la bonne échelle pour travailler. Mais une fois que vous voyez, les patchs sont à peu près les mêmes. Donc, vous pouvez reconnaître les objets. Alors ça, ce travail est plus fait par mon collègue Bruno Gass, qui, lui, a fait de l'extraction de primitifs sonores, de la caractérisation de son pendant plusieurs années. Et donc l'idée, il a utilisé le modèle de Patterson. Alors c'est une cochlée, il y a un banc de filtre, et puis on regarde la réponse dans les filtres et on regarde la puissance de cette réponse, et finalement ça donne des vecteurs qui sont entrés ici. Donc chacun a un filtre prédicteur, et en fait on essaie de détecter la dynamique de l'évolution du son. Donc il a entraîné 26 réseaux. Et puis il essaie de prédire, de voir quel est le réseau qui répond. Enfin, c'est un schéma plutôt classique. Et finalement, est-ce que ça correspond à l'objet ? Alors les résultats sont là. Alors là, il y a plusieurs bases. Là, c'est absolument, il n'y a pas de bruit. On voit que la vidéo, la reconnaissance d'image marche, elle marche assez bien en fait. La base B3, c'est là où il y a les occlusions. Donc quand on ne voit pas l'objet, on suppose qu'on ne le voit pas, donc on ne reconnaît rien. Et puis la base B4, Bruno a bruité tout au long, pratiquement, avec un bruit à 80% présent, tous les sons. Et l'idée, ça a été d'essayer de voir ce que l'image pouvait apporter au son et ce que le son pouvait apporter à l'image. Et étonnamment, on a utilisé deux méthodes de décision qui sont globales, et puis on a testé quatre méthodes locales. Pour vous faire court, sans se perdre dans les courbes, la méthode globale, ce que vous avez, c'est qu'à chaque étape, chaque ligne audio et vidéo va essayer de reconnaître ce qu'elle voit. Donc tout le jeu, ça va être de voir comment votre décision locale va être choisie. Alors le plus simple, c'est de dire à chaque étape, je regarde ce qui se passe. Donc ça, c'est LD1. Et ça m'est égal de savoir ce que j'ai vu avant ni ce qu'a vu l'audio. Et puis à l'étape d'après, le LD2, c'est j'essaie de m'estimer moi par rapport à une cohérence temporelle. Donc je tiens compte de mes précédentes valeurs, et donc si je suis faux, j'essaie de corriger selon la prédiction. Le LD3, c'est utiliser l'information mutuelle. Ça veut dire si le son minimise une erreur sur l'objet 26 et moi aussi sur l'objet 26, on se met d'accord, c'est 26. Si on n'est pas d'accord, on essaye de voir est-ce qu'il n'y a pas une pondération. Et finalement, le LD4, c'est la même chose, mais avec des prédicteurs sur chaque ligne. Et ce qu'on voit finalement, c'est que même dans des cas extrêmement bruités, où vous voyez ici que l'audio était complètement pas là, on arrive à avoir des taux de reconnaissance de 96%. Ça a un sens, parce que si vous voyez passer quelqu'un pas très bien, et puis que vous l'avez bien entendu, que vous savez c'est sa voix, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour le reconnaître. Et donc on va dire que finalement, quelque chose d'attendu, plus on rajoute des modalités et mieux on se porte. Mais à mon sens, ces résultats, ça reste assez embryonnaire et assez sympathique. Quel est le vrai problème de la fusion ? Le problème, c'est que souvent, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de trouver une primitive qui soit, pour éviter le schéma d'Eldelson et Bergen, immédiate et qui fusionne l'image et le son pratiquement aux couches les plus basses. Mais on va se heurter à un problème qui est que les images, bah, c'est des primitives, c'est des plans, hein, c'est des plans 2D qu'on va venir à chaque fois, donc c'est un signal 2D. Et puis le son, en général, c'est des signaux 1D. Et alors, par des histoires, on peut calculer des spectrogrammes, etc. Enfin, on peut essayer d'emmener l'un vers l'autre. C'est extrêmement difficile de trouver ça. Et c'est pour ça que la plupart des schémas actuels vont avoir deux lignes parallèles. Je vais d'abord extraire ce qui concerne le son quelque part, ce qui concerne l'image quelque part en primitive, et il n'y a jamais une... Enfin, on n'a pas trouvé, peut-être que quelqu'un peut... quelque chose qui prend l'info immédiatement des deux au niveau le plus bas. Alors, vous voyez, bon, il y a quand même un défi, là, ça part très mal. Alors, une question, comment régler ce problème du 2D, puisqu'on a vu que pratiquement les deux primitives, bon, j'ai résumé très fortement, mais ça c'est à peu près ce cas. Donc, vous avez l'approche plutôt texton, texture, patch, l'autre approche plutôt dérivée. Et, alors, j'ai la chance de venir de ces capteurs-là, qui s'appellent les capteurs catadioptriques. Alors, quelqu'un ne sait pas ce que c'est, je rappelle. Ok. Bon, c'est très simple. Le but, c'est de voir partout. Donc, vous allez courber des rayons lumineux pour venir entrer dans votre caméra. Si jamais, voilà, votre caméra qui est là. Et donc, ici, vous avez un miroir et vous récupérez de la lumière et vous l'envoyez là. Et ça vous donne une image 360. D'accord. Alors, généralement, ce que les gens font pour faciliter la vie, c'est... de choisir ce miroir de telle sorte à ce qu'il n'ait qu'un foyer. C'est-à-dire que tous les rayons qui vont taper sur le miroir, qui vont être récupérés par la caméra, vont s'intersecter en un point. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils restent centraux et donc ils peuvent appliquer tous les algos qui ont été faits sur les caméras classiques. Mais si vous faites ça, et je vais anticiper un peu, voilà ce que vous obtenez. Alors je ne prêche pas pour ma chapelle, hein, mais je vous montre. Ça, c'est un modèle central, c'est une hyperbole. Et c'est pratiquement ce qui se vend. Et vous voyez que quand vous voulez obtenir ce foyer, vous allez avoir une très très mauvaise résolution qui ne va pas finalement vous faciliter la vie. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont du mal à utiliser les capteurs catadioptriques. Alors on peut pallier à ça en rajoutant des pixels, mais disons que la résolution native, la construction géométrique du miroir va faire que vous n'allez pas avoir une très très bonne résolution et encore plus. Le problème numéro un qui persiste encore, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette image, sachant que c'est le cas le plus favorable. Alors cette image ici, vous voyez, il y a des pixels. Alors la plupart des personnes qui viennent de l'image, classiquement, vont avoir le réflexe naturel d'essayer d'appliquer des filtres, mais ici, vous n'avez pas la même ouverture, le champ de vision d'un pixel n'est pas constant. Si vous tapez près de l'axe, vous allez avoir des tout petits champs de vision associés au pixel. Et si vous allez taper très haut ici sur le miroir, vous allez avoir des champs de vision extrêmement grands. Donc le champ est variable. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement, mais je peux mettre ma main au feu, aucune méthode générique qui dit quoi faire de ce type d'image. Et c'est le cas le plus favorable. Et si on passe sur les capteurs qu'on est capable de construire, qui soient donc... des capteurs non centraux, ça veut dire que là, vous avez... c'est-à-dire, on peut aujourd'hui construire n'importe quel capteur avec n'importe quel champ de vision pour faciliter une tâche de localisation, etc. Avec toutes les résolutions géométriques qui vont avec, ça devient très complexe, on s'en sort très bien, mais le vrai problème reste, qu'est-ce qu'une primitive? Et finalement, ça rejoint cette histoire de fusion, c'est que ce soit sur des images planes ou sur des images qui sont vraiment assez compliquées, on se rend compte que le problème numéro un qu'on rencontre, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces images. Et si vous regardez l'ensemble de la vision, la partie géométrique est très très bien écrite, c'est beau, c'est propre, mais la partie traitement des images, c'est un peu un assortiment de petites méthodes qui ressemblent un peu à l'épicerie fine, quoi. Vous voulez ça, bah voilà, il y a ça, il y a ça. Mais il n'y a pas un concept global qui dit quoi faire d'une image. Alors comme il y a des jeunes, hein, je le dis. Alors... l'animal qui me fascine le plus, ça reste l'abeille. 1 million de neurones. C'est l'insecte le plus intelligent. Il est capable de faire des cartes, de raconter sa vie aux autres, leur dire où est-ce qu'il y a du miel, retrouver sa carte, reconnaître les fleurs, etc. Et c'est quelque chose de fascinant. C'est tout petit, ça consomme pas grand-chose. Et finalement, ça bat tout ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, modèle absolu à imaginer. Et finalement, ce capteur-là, je ne vais pas m'étendre sur les yeux à facettes, mais c'est très intéressant de voir. Alors, une autre partie de mes activités aujourd'hui concerne l'étude de la rétine, pas du cortex, etc., et la fabrication d'implants. Et quelque chose qui est surprenant, c'est que la rétine a des résolutions très proches d'un capteur catadioptrique classique, et pourtant, on voit très bien, vous n'avez aucune idée que votre champ de vision est variable, et donc il y a quelque chose à apprendre là. Je ne dis pas en abandonnant la géométrie et tout ce que je fais habituellement, mais je pense qu'il y a quelque chose. Alors, juste pour le mot de la fin, parce qu'il faut quand même clôturer et vous dire ce que je pense, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est que le corps entier parle avec des spikes. Et le spike, l'information essentielle du spike, c'est le temps. Or, quand on veut faire de la fusion, il me semble que la chose la plus importante, ça va être finalement de construire quelque chose où le temps est la chose la plus importante, non plus la primitive qui peut être plus haut niveau. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons sur ça veut dire, à mon sens, il faut repenser le capteur. Pas la vision, le capteur, le vrai capteur image. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas assez de dynamique, ça ne colle pas avec le reste. On joue avec des formats qui ne sont pas bons. Et vraiment, un gros travail devrait aller là. Et ça ira nettement mieux, en tout cas pour la fusion audio-vidéo. Voilà, je suis prêt à en discuter avec qui veut. J'ai fini. Voilà, merci. Merci.